chapitre de l'épître aux Romains, le chapitre de l'épître aux Romains. Pendant que vous cherchez la référence, permettez-moi également de vous apporter les bonnes salutations de vos frères et sœurs dans la foi. Ils sont dans l'assemblée de Cergy-Pontoise en région parisienne. Ils savent que nous sommes ici avec vous ce week-end. Ils ont prié, nous avons prié pour que Dieu nous fasse du bien ensemble. Et c'est normal que je vous apporte donc leurs bonnes salutations fraternelles. Et je vous demanderai aussi de continuer à prier pour eux, à prier pour nous, pour que l'œuvre de Dieu dans cette région puisse continuer à aller de l'avant, car la tâche est immense. Le besoin est grand, mais nous servons un grand Dieu. Qu'il vous bénisse et vous accorde ce que vous lui demanderez pour nous. Épître de Paul aux Romains, premier chapitre, et nous lisons dans le verset 16 ce qui est écrit. Je n'ai point honte de l'Évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Ce matin, bien-aimé, par cette parole, cette déclaration de l'apôtre, je crois que le Seigneur veut nous encourager, à vous et à moi également, de vivre la même réalité, de vivre la même expérience, de vivre le même bonheur, de connaître l'Évangile, de croire en l'Évangile et de vivre l'Évangile. Car l'homme qui écrit « Je n'ai point honte de l'Évangile », c'est celui qui, pendant plusieurs années, avait combattu l'Évangile, s'était opposé et persécuté ceux qui croyaient en l'Évangile. Mais voilà que maintenant qu'il a cru en Jésus ressuscité, maintenant qu'il a cru et qu'il a reçu de Jésus-Christ ressuscité l'Évangile, bonne nouvelle, il dira, oui, désormais, pour moi vivre, c'est Christ Jésus. Pour moi, ma vie, eh bien, c'est annoncer Christ Jésus. C'est prêcher l'Évangile. Et toute sa vie va désormais être consacrée à l'Évangile. Au point qu'il pourra dire mon Évangile. Non pas l'Évangile de Paul, non pas l'Évangile selon Paul, mais l'Évangile de Jésus-Christ qu'il a reçu, qu'il a intégré, qu'il vit, qu'il respire. Oui, l'Évangile, qui désormais est sa raison d'être, et lui donne l'espérance et l'espoir de l'éternité glorieuse. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Oui, je n'ai point honte de l'Évangile. Alors nous pouvons bien le comprendre maintenant. Quand il ajoute, parce que l'Évangile est puissance de Dieu pour le salut. Si lui s'était opposé, et s'il combattait les croyants, c'est parce qu'il pensait servir Dieu pour le salut de son âme. Mais il n'avait pas compris qu'en fait, il s'opposait à Dieu en s'opposant à l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, quand il rencontre le Sauveur sur le chemin de Damas, désormais, il sait que l'Évangile qu'il avait longtemps combattu est véritablement le seul message digne d'être reçu, car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu que Dieu a déployé pour accomplir un plan parfait, le plan du salut. Un salut préparé de l'éternité et manifesté et accompli par Jésus-Christ, son Fils. Que son nom soit loué. Alléluia. Donc il dira, je n'ai point honte de l'Évangile. Nous aussi qui avons goûté à l'Évangile, nous n'avons point honte de l'Évangile parce qu'effectivement, sa puissance nous a convaincus, nous a bouleversés et a fait de nous maintenant
des croyants et des croyantes, et nous savons en qui nous avons cru. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Je n'ai point de l'évangile, sera-t-il, parce que en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Et c'est en cela que ce matin, nous voulons nous aussi nous arrêter et méditer sur cette affirmation afin que nous puissions nous aussi comprendre que nous avons désormais de bonnes raisons de ne pas avoir honte de l'Évangile. Et ce matin, puisque le temps est compté, je retiendrai pour vous trois bonnes raisons. L'apôtre dit, je n'ai point honte de l'Évangile. Mon frère, ma sœur, tu ne dois pas, vous ne devez pas avoir honte de l'Évangile. Premièrement, parce que Jésus-Christ déclare, dans l'Évangile selon Marc au chapitre 8, ou peut-être pourrons-nous faire la lecture ensemble, ce sera le mieux. Dans l'Évangile de Marc au chapitre 8, Jésus-Christ déclare ceci. Au verset 38. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Mes bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ nous déclare que si quelqu'un a honte de lui et de l'Évangile, eh bien, lui aussi aura honte de cette personne. Il le dit parce qu'il connaissait la réaction, eh bien, de la foule. Il connaissait également, mes amis, le cœur de l'être humain. Et Jésus dit, au sein d'une génération pécheresse, au sein d'une génération adultère, au sein d'une génération perdue, perverse, prenez garde d'avoir honte de l'Évangile. Prenez garde d'avoir honte de Jésus-Christ. Et s'il le dit, bien-aimé, c'est qu'effectivement, nous courons le risque d'avoir honte de l'Évangile. Au Christ, mais oh, mais vous exagérez, monsieur. Moi, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est facile de dire je n'ai pas honte de l'Évangile quand nous sommes entre nous croyants ici assemblés. C'est facile de dire je n'ai pas honte de l'Évangile quand je suis tout seul chez moi. Mais ce n'est pas toujours évident de dire je n'ai pas honte de l'Évangile au milieu de mes collègues, au milieu de mes amis, parmi les voisins. Ah, je n'ai pas honte de l'Évangile parmi la foule. Je peux dire que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Oui, mes amis, en tout cas, c'est ce que nous devrions faire. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais c'est parce que ce n'est pas toujours facile que Jésus a donné cette parole très forte qui est cet avertissement. Un avertissement qui retentit. Et ce matin que le Saint-Esprit veut rappeler à nos cœurs, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, parce qu'il vit au milieu d'une génération méprisante. Parce qu'il vit au milieu d'une génération qui se moque des croyants et qui se moque de Dieu et des choses de Dieu. Si quelqu'un, eh bien, vit dans ce milieu où les hommes pensent que Dieu, eh bien, c'est le bon Dieu, ils n'en ont pas besoin. Et même avec mépris, vous parle de vos bondieuseries. Et qu'à cause de cela, eh bien, vous ne voulez plus parler de Jésus et de votre foi. Jésus, ce matin, nous rappelle, prenez garde que personne n'ait honte de moi et de mes paroles. Ce matin, mes frères et mes sœurs, n'ayons point honte de l'Évangile. Car avoir honte de l'Évangile, c'est avoir honte de Jésus. Or, ce matin, Jésus peut nous rappeler nous aurions le plus grand tort du monde d'avoir honte de lui. Car lui nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité un seul instant à quitter la gloire éternelle. Il n'a pas eu honte de quitter sa condition de Dieu. Il n'a pas eu honte de s'abaisser au rang de la créature que nous sommes. Il n'a pas eu honte de changer de condition, renoncer à celle qui est glorieuse pour venir à celle qui est humiliante, la condition de l'homme pécheur. Jésus,
étant Dieu,
s'est fait homme. Et mes amis, s'il l'a fait par amour pour vous et moi, il l'a fait pour accomplir le plan rédempteur de Dieu que l'Évangile nous révèle. Alors pourquoi ce matin il est important que nous puissions comprendre que oui, Jésus, il a bien raison de dire « Quiconque aura honte de moi. » Parce que lui a accepté l'abaissement et l'humiliation. Lui a accepté, eh bien, de se vêtir du, non pas, eh bien, du manteau royal, mais de la tunique de l'esclave et du serviteur. Car il s'est abaissé jusqu'à laver les pieds de ses disciples, tâche réservée aux esclaves à l'époque. Et le jour où Jésus dit, eh bien, quiconque aura honte de moi, c'est parce que mes amis, il monte à Jérusalem. Et il dit à ses disciples, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme va être arrêté. Il va être livré. Et les sacrificateurs et les scribes vont le livrer aux païens qui se moqueront de lui. Hein, quand il dit cela,
quand Pierre entend ce mot crucifié,
il dit, ah, mais non, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Parce que Paul et Pierre, plutôt quand Pierre parle ainsi, eh bien, Jésus dit, arrière de moi, Satan, car là, ce sont des pensées humaines, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Mais Pierre, il a parlé de tout son cœur. Pourquoi? Il a été inspiré par le diable pour donner ses paroles. Ce n'est pas que c'est le diable qui a dit à Pierre de dire ses paroles. Mais ses paroles sont conformes à la pensée du diable pour détourner Jésus-Christ de l'accomplissement de sa mission. Pourquoi donc?
Parce que
Pierre sait, eh bien, que la crucifixion, eh bien, c'est la plus abominable et la plus horrible des châtiments qui puissent exister. La crucifixion est réservée à ceux que la société considère comme, mes amis, ceux qui sont indignes de vivre en son sein. La crucifixion, c'est la mort qui était réservée aux coupables qui avaient commis les plus grands crimes afin qu'ils puissent payer au plus fort leur forfait. Voici que Jésus dit, lui, il va être crucifié. Ça veut dire, il va être traité comme les brigands, comme les voleurs, comme les tueurs, comme les ravisseurs. Il va être tué comme les fomenteurs de troubles, comme ceux qui s'opposent à l'autorité romaine. Il va être traité comme ceux que l'on considère comme les plus grands coupables. La pierre dit,
mais c'est pas possible. Toi, tu ne peux pas accepter un tel traitement, ce n'est pas digne de toi.
Non, Seigneur, non, nous, on a tout quitté pour te suivre. Il n'est pas possible que toi, tu puisses accepter un tel traitement. C'est pas possible, Seigneur. À Dieu, cela ne plaise. Et pourtant, Jésus, il dit oui. C'est justement pour cette heure que je suis venu. C'est pour la crucifixion que je suis venu. Ce matin, donc, mon frère, ma sœur, Jésus veut nous appeler les uns et les autres à nous revêtir
de ces sentiments, à avoir dans nos cœurs ces sentiments,
à accepter, mes amis,
de ne pas
avoir honte
à cause de ce que les gens peuvent dire, penser de nous parce que nous avons choisi de croire. matin que Dieu donc vous donne de ne pas avoir honte. Car vous et moi, nous n'irons jamais jusqu'à la honte que Jésus-Christ a subie et a connue. Parce que mes amis, vous avez peut-être vu le film quand on a essayé de montrer la crucifixion de Jésus. La crucifixion, c'est une scène terrible à voir. Les crucifiés, mes amis, ils sont humiliés au plus bas possible, ils sont dans la boue. Ils sont dévêtus. Jésus a accepté cela parce que c'était le plan de Dieu pour que l'Évangile soit cette puissance qui nous libère, qui nous transforme et qui fait de nouvelles créatures élevées à la dignité d'enfant de Dieu. Que Dieu soit béni pour l'éternité. Alléluia. Ce matin donc, si tu as compris cela, alors n'aie point honte de l'Évangile de Jésus-Christ. Que peuvent te faire les regards moqueurs? Que peuvent te faire, mes amis, ceux-là qui s'opposent et qui ridiculisent le christianisme ou le chrétien? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que ces instants à côté de ce que Jésus a subi à Golgotha? C'est pourquoi ce matin, oui, mon frère, ma sœur, comprends que Jésus donne cet avertissement. Si quelqu'un a honte de moi au sein de cette génération adultère, et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui. Et il y a de quoi, mes frères et sœurs. C'est pourquoi ce matin, n'ayons point honte. Or, les temps de plus en plus difficiles font que les chrétiens, de plus en plus, eh bien, ont honte, mais n'osent pas, je ne veux pas dire le mot très fort parce que ça fait peur. On n'a peut-être pas honte, mais il y a comme une sorte de gêne, mais. On ne parle plus spontanément de l'Évangile. On ne parle plus spontanément de Jésus. Oh, pour vous qui avez eu l'occasion d'entendre le témoignage des anciens, nos pères qui nous ont prêté la foi, ici en France, qu'est-ce qu'on disait d'eux? Les Alléluia. Pourquoi? Parce que dans leur simplicité, ils disaient à qui voulait l'entendre. Le Seigneur est vivant. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le seul sauveur. Jésus sort, Jésus baptise, Jésus guérit, Jésus revient. Partout en France, du nord au sud, de l'est en ouest, eh bien, les croyants parlaient de Jésus sans honte, sans retenue. Dans les trains, ils en parlaient. Au voisinage, tout le monde entendait parler de Jésus parce qu'ils n'avaient pas honte. Est-ce que parce que maintenant, nous sommes devenus plus sages, que nous n'osons plus parler? Ou alors, est-ce que nous sommes devenus timides? En tout cas, que Dieu, dans sa grâce, ce matin, nous donne de comprendre qu'il nous faut regarder à Jésus que nous annonçons, parce que nous avons cru en Jésus, et lui, il a accepté l'inacceptable. Il a subi l'ignominie. Mais il a méprisé tout cela à cause de la gloire qui lui était réservée. Alléluia. Or, c'est pour cette gloire qu'il est venu nous chercher et nous sauver. Si nous avons goûté en l'Évangile, l'Évangile nous donne l'espérance de la gloire éternelle. Et c'est à cause de cela que nous devons accepter de ne pas avoir honte de Jésus. Si pas, qu'on nous traite, qu'on nous méprise, qu'on nous rejette, quand Dieu nous regarde de haut, qu'on nous regarde de travers, peu importe, mes amis, de ceux qui n'ont pas honte de l'Évangile, de ceux qui osent, eh bien, dire, disaient les jeunes, eh bien, sortir le drapeau de l'Évangile. Moi, je crois en Jésus. Moi, je sais qui est Jésus. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Moi, je ne marche pas comme vous, je ne bois pas comme vous, je ne fais pas comme vous, parce que Jésus m'a délivré de tout cela. Que son nom soit béni à jamais. Alléluia. Nous sommes dans une génération qui de plus en plus nous intimide, qui de plus en plus devient arrogante, qui de plus en plus devient méprisante. Nous sommes au sein d'une génération. Eh bien, quand je dis une génération perverse, adultère, mes amis, je ne sais pas si vous regardez, si vous écoutez, notre génération maintenant atteint bientôt le point de non-retour où le jugement de Dieu ne finira par tomber. Parce que l'on ne veut plus entendre parler de Dieu. Et quand notre génération parle de Dieu, c'est avec mépris. Quand notre génération parle des choses de Dieu, c'est toujours avec mépris. Au point que, mes amis, bien des fois, eh bien, on se cache parce qu'on se trouve trop petit. Oui, petit nous le sommes, mais notre Dieu est tellement grand. Non, pas avoir honte de lui. Que son nom soit loué. Alléluia. Oh, puisque le temps passe, il y a une deuxième raison pour ne pas avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. Car lorsque Jésus a donné sa vie, avait dit, voici, il a tout accompli, le plan parfait du salut a été accompli. La question du péché entre Dieu et nous a été réglée. Dieu le Père a ressuscité Christ d'entre les morts le troisième matin. Et le Christ est victorieux qui a montré ses mains et son côté de disciples apeurés. Ses disciples qui avaient la crainte s'étaient cachés enfermés à cause de la crainte des Juifs. Car ils disaient, si c'est ainsi qu'ils ont traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec que nous sommes? Alors à cause de la crainte des Juifs, s'étaient enfermés. Alors le Christ ressuscité viendra vers eux et va leur dire, il montre les marques des clous dans ses mains. Il dit, regardez, voyez ce qui est mort. Oui, il a été élevé sur la croix. Il a été élevé sur la croix, mais c'était pour avoir pour le sang. Il a été élevé sur la croix, mais quand on croyait qu'il était livré en spectacle devant la foule qui secouait de la tête, ou que se frappait la poitrine, eh bien, il dépouillait les autorités, les dominations, il triomphait d'elles. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Mes amis, par sa mort, il triomphait de la mort pour donner la vie et la vie éternelle à ceux qui croient en son nom. Et donc, quand il donne les preuves de sa résurrection, quand il montre maintenant que oui, le salut est accompli, nous avons l'évidence de la vie éternelle, de l'immortalité, la Bible déclare que Jésus va dire à ses disciples, désormais, ne vous inquiétez point. Vous allez porter cette bonne nouvelle à toute la création, à commencer par Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais attendez! Attendez d'abord. Car vous allez, dans peu de jours, recevoir ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit, voici, c'est une puissance survenant sur vous, et alors vous serez mes témoins. Donc ce matin, Dieu veut que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit qui a été promis, Jésus-Christ l'a reçu du Père, et l'a répandu sur son Église. Et il veut répandre le Saint-Esprit sur nous aujourd'hui, afin que dorénavant, par cette puissance d'en haut qui vient nous remplir, n'ayons point honte de l'Évangile. Alléluia. Car l'Évangile devient cette puissance de Dieu à laquelle on ne peut résister, parce que mes amis, c'est la puissance du Saint-Esprit qui rend le chrétien capable. Donc Dieu veut nous aider les uns et les autres, eh bien, à comprendre cette expérience-là. Eh bien, si nous l'avons vécue, nous devons savoir que dorénavant et désormais, à partir de cet instant-là, eh bien, nous sommes des hommes et des femmes qui avons reçu ce qui nous rend capables, eh bien, de dépasser et de surmonter nos timidités, nos craintes, nos faiblesses, tout ce que nous sommes par nature. Tout cela, mes amis, est transformé par la puissance du Saint-Esprit, qui fait que dorénavant, eh bien, vous et moi, ne devons plus être timides. Je crois que le Seigneur, quand il l'a dit, les disciples, quand ils l'ont vécu, la démonstration en a été faite. Au jour de la Pentecôte, nous raconte les Actes des Apôtres, au chapitre 2. Quand le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient rassemblés depuis plusieurs jours pour attendre la Mais
ils vont tous être remplis du
Saint-Esprit. Et ils vont se mettre à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils ont parlé dans
toutes sortes de langues
des merveilles du Dieu Tout-Puissant. Au bruit que les 120, peuvent faire sortir. Vous savez, quand ça parler en langue, ça fait du bruit. Hein. La foule a couru. Comme toujours, les curieux viennent. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et parmi ces curieux, bien sûr, comme toujours, au sein d'une génération perverse, adultère, pécheresse, il y aura toujours des moqueurs. Mais ces gens-là, ils sont pleins de vin doux. Ceux qui ne comprennent rien aux choses de Dieu, comment voulez-vous, eh bien, qu'ils les traitent autrement qu'avec mépris? C'est pourquoi, pour ce matin, n'ayons point honte de Dieu et des choses d'en haut, parce que ce sont des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, et qui sont révélées à ceux qui sont comme des petits-enfants. Ce matin, vous et moi, nous avons quelque chose d'extraordinaire que les autres n'ont pas. C'est pourquoi n'ayez point honte. Ne tremblez pas devant ces grosses têtes. Ne tremblez pas devant... Je me souviens de ce témoignage vécu par une de nos sœurs qui travaille à l'hôpital. Elle vivait dans la misère, dans la souffrance, à cause d'un mari violent. Alors, dans la détresse, elle a entendu l'évangile. Elle confie en Jésus, sa vie a été bouleversée, transformée. Elle s'est tellement transformée, elle qui se bagarrait avec son mari pour répondre à sa méchanceté, son mari l'a vu complètement changé. Il a mis sa vie et l'a laissée toute seule. Mais elle
vivait dans la foi
une joie extraordinaire et une paix. Et partout, tout le monde savait à l'hôpital, eh bien, qu'elle était chrétienne. Parce qu'elle parlait de Jésus-Christ à tout le monde. À ses collègues, eh bien, qui passent je sais pas comment vous appelez ça, là, pour illustrer le parquet. Et à celles qui passent pour faire les piqûres. Comme au grand professeur. Elle parlait de Jésus à tout le monde. Quoi? Non, il faut se parler au professeur. Ben oui, mais le professeur, ça peut être Jésus. Le professeur, le directeur de l'hôpital. Noélise, venez voir. Et elle va dans le bureau. Je sais que vous êtes croyante. Est-ce que vous pourrez faire une petite prière pour moi? Parce que voici mon problème. Bien sûr, c'est sa vie privée, je ne vais pas vous la... Jésus, je vous assure, on va prier. Je vais dire à mon pasteur et à l'église pour prier. Mes amis, n'ayez pas honte de l'évangile.
Souvent, quand je les écoute à la télévision, quand ils font des débats, ils parlent
de la religion, ils parlent de l'évangile, ils parlent des chrétiens, ils parlent des protestants, des évangélistes. J'ai entendu dans leur propos, j'ai dit, oh là là, ils sont tellement doctes. Et moi, j'ai des questions. Parce qu'ils parlent avec d'une manière péremptoire des choses qu'ils ignorent complètement. C'est là que je me dis, mais c'est vrai. Ils ne vont pas avoir honte de l'évangile. Parce que leur intelligence est obscurcie par le Dieu de ce siècle. Leur intelligence étant obscurcie, elle ne leur permet pas de connaître la vérité. Alors que vous et moi, elle est tellement claire et limpide qu'on dit, mais c'est vrai, Seigneur, que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Amen. Donc, mes bien-aimés, n'ayons point honte. Et comme dit Paul à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, de sagesse et d'amour, afin que nous n'ayons point honte de l'évangile. Alors que Dieu nous permet de dire, Seigneur, j'avais oublié que tu m'avais donné une toute puissance qui vient de toi, le Saint-Esprit. Oh, j'ai exagéré, enlevé tout, mais disons une puissance extraordinaire qui vient de toi par le Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, je vais ranimer le don que tu as mis en moi. Mais bien-aimés, si vous voulez que les ténèbres de votre ville reculent, si vous voulez que la multitude vienne à Jésus-Christ, Eh bien, Dieu veut que vous sachiez que ce ne sera pas par la beauté et la qualité de vos locaux,
ce ne sera pas par la beauté et la qualité de vos prédications,
ce sera pas par la qualité et la beauté de vos chants, mais ce ne sera pas la puissance du Saint. Alors que Dieu, dans sa grâce, vous aide à comprendre que tout cela, il le faut, bien sûr. Il le faut. Béni soit Dieu. Car s'il n'y a pas ces choses-là, il n'y a rien non plus. N'est-ce pas, entendu qu'il ne faut pas faire ces choses-là. Mais c'est Dieu veut que nous puissions comprendre que si nous nous appuyons sur le Saint-Esprit, alors nous n'aurons point honte de parler de Jésus. Amen. Que Dieu, dans sa grâce, donc, nous aide à comprendre qu'à cause du Saint-Esprit qui nous remplit, eh bien, nous n'avons pas à avoir honte de l'Évangile. Car lorsque Pierre, lui qui auparavant avait régné le Seigneur, parce qu'il avait tremblé simplement devant une petite femme, et puis quand c'est une petite femme, c'était une servante, il a dit, mais cet homme aussi fait partie de ceux qui suivaient Jésus. Il a dit, non, et vous savez, avec serment. Jésus a les mains liées derrière le dos, comme un malfaiteur. Ah, Pierre a régné son maître. Il avait dit que Pierre était avec les autres enfermés dans la chambre à plusieurs tours. Mais voyez-vous, après la Pentecôte, Pierre vient devant cette foule.
Il dit, hey, écoutez-moi, hommes israélites et vous tous
qui séjournez à Jérusalem. Ces gens que vous voyez, entendez, ne sont pas sous, car il n'est que 9 heures du matin. Mais c'est ici l'accomplissement de ce que Dieu a prononcé par le prophète Joël. Alléluia. C'est que dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai de mon esprit toute chair.
Alléluia.
C'est donc ainsi que le Saint-Esprit promis s'était descendu déverse dans leur vie. Donc ne le prenez pas pour des sous, pour des ivrognes, des... Que sais-je encore? J'arrête là. Mais comprenez, ils sont en train de vivre une expérience extraordinaire. Et la Bible déclare que quand ils ont écouté les paroles de Pierre, eh bien, elles ont été comme une épée qui transperçait leur cœur. Ils eurent le cœur vivement transpercé. Ils eurent le cœur vivement touché. Alors, ils vont dire à Pierre, eh bien, homme frère, que ferons-nous? Alors, répentez-vous. Vous les moqueurs, répentez-vous. Vous les curieux, répentez-vous. Vous les contestataires, répentez-vous. Vous les opposants, répentez-vous. Puisque maintenant vous avez compris que Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité, car c'est par lui que le salut a été accompli. Que son nom soit loué. Alléluia.
Amis,
il déclare que de voyant l'assurance de Pierre et par la puissance des paroles, du Saint-Esprit. Donc ce matin, ce que l'Église doit réaliser, c'est qu'il nous faut de plus en plus revenir à la source. Il faut de plus en plus venir au pied du Maître, et afin d'être à nouveau rempli du Saint-Esprit. Et pour l'Église qui a fait l'expérience du baptême par le Saint-Esprit, il faut que vous et moi nous ranimions le don. Il faut ranimer le don que nous avons reçu. Il ne suffit pas d'avoir fait l'expérience du baptême par le Saint-Esprit. Comme me disait un jour une sœur, « Mes frères, ça fait longtemps que je ne parle plus en langue. » Pourtant, j'avais été baptisé du Saint-Esprit. Alors, n'as-tu pas compris que c'était une puissance que Dieu t'avait donnée afin que tu puisses l'entretenir pour qu'elle te maintienne dans la puissance de Dieu pour être témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, mes frères, mes sœurs, revenez au Saint-Esprit dans ses dons, dans ce baptême. Parlez en langue. Faites-le de plus en plus. Dans vos cultes personnels, bien sûr que dans l'église, quand on est rassemblé pour le culte, l'adoration, il ne faut pas exagérer comme à Corinthe, mais l'apôtre Paul dit ceci, eh bien, moi je parle en langue plus que vous tous. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. La puissance de Dieu agit au travers de lui, et il devient quelqu'un qui, lorsqu'il témoigne de Jésus, eh bien, sa parole, elle transperce le cœur. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, ce matin, il y a aussi une troisième raison que j'aimerais vous donner, une troisième bonne raison. Ne pas avoir honte de l'Évangile. C'est que la Bible dit qu'il nous faudra tous un jour comparaître devant le tribunal de Christ. Oh, bien sûr, pour nous tous sauvés, nous ne viendrons plus en jugement devant Dieu. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Mais Paul dit, dans l'Épître aux Romains au chapitre 14, dans un autre contexte, bien sûr, et il dit au verset 12, et chacun rendra compte pour lui-même devant Dieu. Mais il dit dans l'Épître aux Corinthiens, peut-être qu'on va lire ensemble, dans 2 Corinthiens 5, au verset 9, il dit, 2 Corinthiens 5, 9, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Et dans 1 Corinthiens 3, il dit ceci à partir du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Donc, bien-aimés, si l'Écriture nous enseigne qu'un jour il y aura des comptes à rendre, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à notre responsabilité vis-à-vis de l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'avons-nous fait? Qu'avez-vous fait? Tu fais de l'Évangile pendant sur terre. À plusieurs reprises, Jésus-Christ a parlé de ces choses, du royaume, en utilisant des paraboles. Vous connaissez celle qui est si célèbre, qu'on appelle la parabole des talents. À chacun, il donne selon ses capacités. À l'un, 5 talents. À l'autre, 2. Et à un troisième, 1 talent. Vous connaissez tous ce que le troisième a fait. Tandis que les 2 autres sont partis, ont fait valoir leur talent. Qu'est-ce que le troisième a fait? Il a creusé un trou et il a caché le talent. Et Jésus, c'est une parabole. Il dit, parce que cet homme, il s'est dit, eh bien, à son retour, je rendrai au maître le talent qu'il m'a confié. Je suis sûr de ne pas le faire. Oui, bien-aimé, que Dieu, dans sa grâce, nous aide à comprendre qu'il ne faut pas enterrer le talent. Il ne faut pas enterrer ce que Jésus-Christ nous a donné. Il ne faut pas enterrer ce que le Seigneur nous a confié. Il nous a confié l'Évangile. C'est afin que nous puissions comprendre que c'est par l'Évangile et bien que vous et moi nous allons investir. C'est par l'Évangile que vous et moi et bien nous allons faire des œuvres. Jésus veut nous aider à comprendre que c'est pendant que nous avons la possibilité de le servir ici qu'il faut le faire pour que l'Évangile progresse et qu'un grand nombre puisse être sauvé à notre récompense au ciel. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bien-aimés, comprenons donc que si nous avons honte de l'Évangile, eh bien, nous allons cacher l'Évangile.
Nous allons cacher ce que nous savons. Nous allons cacher ce trésor. Alors, le trésor, il n'a pas été donné pour être caché. Il a été donné pour être caché. Que dit pas ce matin, oh, saisissons toutes les opportunités pour accomplir les œuvres. Car je reviens au premier texte. Paul dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et il dit que c'est en lui que... afin que nous puissions comprendre
que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres.
Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous pouvons faire pour Dieu. Nous ne pouvons rien mériter dans le ciel. Mais par contre, ce que vous et moi ne savions pas, c'est qu'avant que Dieu ne vienne révéler l'évangile à sauver, il avait préparé des œuvres bonnes afin qu'après notre conversion, nous puissions les pratiquer. De nous lever pour travailler à son œuvre pendant quelques jours. Car la nuit vient bientôt où plus personne ne pourra travailler. C'est pas qu'il fait jour qu'il faut que vous et moi puissions pratiquer les bonnes œuvres. Le salut est par grâce, mais la grâce nous enseigne que Dieu s'est acquis un peuple afin que ce peuple purifié par lui soit appelé pour les œuvres bonnes de prédence. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à être ces hommes et ces femmes qui nous levons désormais parce que nous avons compris en qui nous avons cru. L'apôtre dit, eh bien, c'est parce que j'ai cru que j'ai parlé. Dorénavant, nous ne pouvons plus nous taire, car si nous nous taisons, eh bien, Jésus dit, les pierres crieront. Et l'apôtre dit, si vous vous taisez, comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, notre responsabilité, c'est de travailler à l'annonce de l'Évangile. Si vous ne pouvez aller, eh bien, participer par la prière. Si vous ne pouvez aller, eh bien, donner pour que d'autres aillent. De toute manière, Dieu nous invite les uns et les autres à participer. Car l'apôtre dit, c'est la conclusion maintenant, il nous faut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail dans le Seigneur ne sera jamais 1 Corinthiens 15, 58, je laisse là sur vos cœurs, afin que dorénavant, vous puissiez dire, même si je ne vois pas le fruit, si je ne vois pas le résultat, Jésus te dit, ce n'est pas ici, mais c'est là au ciel. Parce que ici, les voleurs et la terre ne peuvent atteindre. Mais quand tu amasses des trésors dans le ciel, aucun voleur, aucune teigne ne pourra atteindre ton trésor. Un jour, devant le Christ, tu te présenteras devant lui. C'est pourquoi, si vous pouvez, travaillez, bâtissez avec de l'or. Si vous n'avez pas de l'or, bâtissez avec l'argent. Si vous n'avez pas d'argent, bâtissez avec les pierres précieuses. Mes amis, faites-le, car celui qui ne fait rien, alors qu'il savait, veut dire il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Que Dieu vous garde de cela. Que Dieu me garde de cela. Et que Dieu vous bénisse. Amen.